Ulivindish, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur cette affaire du Pipigate hein, avec la ministre Sonetta Sumaruga, notamment en ce qui concerne le traitement médiatique. Alors est-ce qu'il y a eu un traitement médiatique de cette affaire qui est, on peut dire, uniforme ou est-ce que finalement il existe un journalisme différent de la bien-pensance?
Alors écoutez, de manière générale, nous avons là évidemment de nouveau un exemple frappant où une très grande partie du monde médiatique a pris la défense de cette ministre socialiste de gauche qui, n'est-ce pas, lors d'un débat où elle a été critiquée, mais nullement dénigrée, absolument pas, a quitté le Parlement, la salle du Parlement, et tout le groupe socialiste et d'autres soumis encore l'ont suivi. Après coup, comme cela donnait pas une très belle image, elle a dit qu'elle avait un besoin urgent. Vous imaginez le tableau, tout le monde a rigolé. Alors, comment la presse s'y est-elle prise? Eh bien, figurez-vous qu'il y a un journaliste correspondant de la radio suisse romande à Bruxelles qui, lui, a une réputation, disons, de libéral, qui en tout cas n'est pas de gauche, qui a osé, dans une rubrique toujours de la radio, a osé dire qu'il pensait quand même que l'hypersensibilité de la ministre posait problème, qu'un ministre devait supporter la provocation même, et surtout ne pas refuser le combat. Et il a pris l'exemple de l'attitude de différents ministres dans ce genre de situation. Il y en a un de ces exemples qui est célèbre, où un conseiller fédéral qui était attaqué, comme on dit, à la limite en dessous de la ceinture, a simplement abaissé son pupitre en disant j'essaie de me mettre à la place et au niveau de mon interlocuteur. D'autres ministres ont été souvent très combatifs et aiment la polémique. Il y a notamment des Valaisans. Donc, ce journaliste critiquait cette ministre et trouvait que ce n'était pas du tout une référence que de se crisper ainsi, qu'elle montrait sa fébrilité. Pas du tout, n'est-ce pas, un antiféministe, mais simplement pas bien pensant et clairement libéral, voire, oh exception, peut-être un peu de droite. Mais voilà donc, après cette prise de position critique, le lendemain, un autre journal dans la même émission est tout de suite venu remettre les choses en place, rappeler la bien-pensance et l'orientation, évidemment, de gauche, voire gauchiste, des médias est un exemple typique. Alors, ce journaliste, Roger Guignard, le premier s'appelait Romain Clivat, celui qui est à Bruxelles. Le second, Roger Guignard, qui avait d'ailleurs déjà, lorsque j'avais une fois fait une critique dans une chronique, dit qu'il n'avait pas de leçon à recevoir de moi. Ça donne déjà le ton de la volonté de discuter, n'est-ce pas? Alors, ce personnage vient dire que il n'y a là nulle frivolité et à vouloir refuser un débat, mais que, au contraire, c'est un signe que le discours politique en Suisse devient de plus en plus dur, de plus en plus violent. L'invective, les attaques personnelles, la caricature des positions de l'adversaire fleurissent et transforment l'arène publique en espace de combat. Imaginez un instant, à cause d'un petit incident comme celui-là, qui a bien sûr ridiculisé cette ministre, voilà que un journaliste se dévoue pour venir prendre la défense de cette ministre socialiste. Et il la remercie de désigner une frontière entre un débat d'intérêt général et utile à la démocratie et, je cite, un salmigondis de propos malhonnêtes et humiliants. Évidemment, ça s'adressait à Roger Coppel, le rédacteur en chef de la Weltwoche, qui a donc critiqué cette ministre, mais il l'a critiquée en montrant sa politique, et c'est là l'essentiel, que nous allons voter sur une initiative relative à l'asile, qui prétend accélérer le traitement des dossiers, alors qu'on sait que même ceux qui sont refusés restent et qu'ils ont droit, imaginez un instant, chacun qu'il soit migrant économique, faux réfugié, aura droit à un avocat gratuit. Alors tout le monde se plaint et dit mais comment, même les Suisses n'ont pas droit à cela. Et finalement le comble, cette ministre a prévu de pouvoir exproprier non seulement des bâtiments publics mais des privés. Et alors évidemment que le journaliste en question minimise, rigole, ridiculise cela en disant que certains pensent que la ministre veut en gros mettre à la rue une masse de Suisses pour leur prendre leur logement. C'est une caricature, mais il y aura des cas réels de ce type-là. On les minimise maintenant pour que les gens acceptent cette révision de l'asile qui ne fera que rendre plus catastrophique la situation. Donc voilà, vous avez, vous devinez, le lendemain déjà, il a dû passer sa nuit, tellement il était révolté, à rédiger une critique pour, bien sûr, si vous voulez, il parle de Monsieur Weltwoche. Ces journalistes-là sont bien sûr jaloux du succès immense d'un journal enfin libéral de droite, et donc tout est bon pour sa démolition, alors que le succès devient grandissant.
Oui, alors est-ce que vous avez d'autres, est-ce qu'il y a d'autres cas de cette pensée finalement unique au sein des médias suisses?
Oui, écoutez, il n'est vraiment pas difficile de trouver des cas. Mais voyez, il y a par exemple une chose qu'on peut rappeler. Il y a de cela un certain nombre d'années, à la télévision suisse romande, par exemple, il y avait un grand chef de gauche socialiste, Claude Toracinta, qui joue un rôle très important dans la nomination des journalistes. Il faut parfois revenir aux sources, à l'origine et aux vraies causes de la situation actuelle. Eh bien, voyez-vous, évidemment, le poste de journaliste à la télévision, quelque chose de prestigieux, les jeunes envient. Et donc, il y avait parfois 100, voire 200 candidats. Et comme par hasard, c'était toujours un jeune de gauche ou socialiste qui sortait du lot. Ça, c'était une politique assez générale. On voulait même éliminer ou déplacer ou gêner un responsable qui était de droite, mais il avait, comme on disait, la protection d'un conseiller fédéral libéral radical comme le journaliste, et donc on n'a pas pu y toucher. Et voyez, même maintenant, ces jours, prenons l'exemple, il y a eu une manifestation soi-disant immense en Pologne, contre le nouveau gouvernement, qui, n'est-ce pas, est conservateur. Et donc, tout de suite, on manifeste en caricaturant ce gouvernement. Et qu'est-ce qu'on entend dans tous les médias, ce week-end, qu'il y a eu 250 000 manifestants en Pologne contre le gouvernement actuel, alors qu'en réalité, des comptages sérieux, fiables par plusieurs sources, disent qu'il y en avait 45 000. Eh bien, le principal agent de propagande médiatique, de déformation, de désinformation, c'était l'agence France Presse qui a repris en premier les 250 000. Donc, vous voyez, il y a vraiment un courant de fond et il faut vraiment être ce que nous sommes, d'une vigilance quotidienne pour traquer ce genre de déformation. Peut-être encore un cas en passant, un dernier. Le journaliste, cette fois, du seul hebdomadaire politique suisse roman, l'Hebdo, nous avons maintenant en Suisse une initiative qui court contre le fait de se dissimuler le visage, sous-entendu évidemment le voile. Eh bien, que dit ce journaliste? L'argumentation classique de la gauche. Il y a des problèmes bien plus importants que le voile. Et n'est-ce pas, il cite quelques exemples. Vous voyez, l'argumentation, quand vous soulevez un problème, et là, le voile, c'est clair, c'est un indicateur, c'est un signe de quelque chose de beaucoup plus profond, de l'emprise de l'islam, par le biais cette fois du voile, parfois c'est d'autres choses, on le sait, les piscines, enfin bref. Alors, ce n'est pas important, n'est-ce pas? Et il cite encore comme exemple, en nous disant que, à propos des terroristes, de ceux qui reviennent, des nationaux qui ont été terroristes, n'est-ce pas? Et tout, vous imaginez les horreurs absolues qu'ils ont commis sur le terrain, dans ces différents endroits, en Syrie et ailleurs. Eh bien, il nous dit que la solution, c'est des efforts réfléchis de déradicalisation et d'intégration. Vous voyez, ces thèses ahurissantes. Beaucoup disent que nous sommes en temps de guerre. Eh bien, ces individus nationaux sont des traîtres, il faut appeler les choses par leur nom, sont des traîtres à leur pays. Et en temps de guerre, on sait ce qu'on fait avec les traîtres. D'où le fait que certains s'interrogent et se posent la question suivante à propos de la peine de mort. Pourquoi attacher une telle importance à ceux qui n'en attachent aucune, à celle des autres ? Je pense de manière générale qu'il faudrait maintenant arrêter avec cette attitude de lâcheté, oui, de soumission et carrément de trahison par rapport à notre histoire, civilisation et culture qui est gravement menacée, et on ne peut plus se contenter d'un politiquement correct complètement dépassé.
Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Windisch.